gouverner sur la base d'un oracle constitue le jeu le plus dangereux de l'univers. Nous ne nous considérons pas comme assez sages ou courageux pour y jouer. Les mesures rapportées ci-dessous et qui concernent des problèmes mineurs sont proches des limitations du gouvernement tel que nous le concevons. Pour définir nos buts, nous citerons le Bene Gesserit, qui considère les divers mondes comme autant de terrains génétiques, comme autant de sources d'enseignements et d'enseignants, de sources de possibles. Notre dessein n'est pas de régner, mais de contrôler ces sources, d'apprendre et de nous libérer de toutes les contraintes imposées par le gouvernement et la dépendance. De l'orgie considérée comme un instrument du pouvoir, chapitre 3 du Guide du Navigateur.
Est-ce là que votre père est mort ? Demanda Edric, en dardant un rayon depuis sa cuve vers la pierre incrustée de joyaux qui brillait sur la carte en relief déployée au mur.
C'est là le sanctuaire où est conservé son crâne, dit Paul. Mon père est mort en vérité à bord d'une frégate des Harkonnen, à l'endroit où nous nous trouvons.
Ah oui, l'histoire me revient maintenant.
Il espérait en quelque sorte tuer le vieux baron Harkonnen, son ennemi juré.
Edric s'agita quelque peu dans son atmosphère orange, tout en souhaitant ne rien révéler de la terreur que lui inspirait cet espace clos. Il porta son regard sur Paul, qui avait pris place sur un divan rayé de gris et de noir.
« Ma sœur a tué le baron, » déclara Paul, « immédiatement avant la bataille d'Arrakin. »
Pourquoi, se demandait-il, l'homme-poisson ouvrait-il ainsi à nouveau des plaies anciennes dans cette demeure et en ce moment ?
Le navigateur paraissait engagé dans une lutte terrible contre son énergie nerveuse, une lutte qu'il était en train de perdre. Les mouvements lents et fluides des premières heures de la rencontre semblaient oubliés. Les yeux minuscules du représentant de la guilde furetaient de toutes parts. Il questionnait, mesurait. Le serviteur qui l'avait accompagné jusqu'ici s'était retiré à l'écart, non loin des gardes alignés à la gauche de leur empereur. Ce serviteur inquiétait Paul. C'était un personnage épais, au cou large, au visage placide, à l'expression vacante. Lorsqu'il était entré dans le salon en tirant derrière lui la cuve d'Edric, Paul avait remarqué sa démarche, ses bras qui pendaient flasques le long de son corps. Cital, ainsi l'avait appelé Edric. Cital, un assistant. Si l'apparence du personnage hurlait la stupidité, ses yeux la démentaient. Il riait à tout ce qu'il rencontrait.
Votre concubine, dit Edric, a paru se distraire au spectacle de nos danseurs visages. Cela me fait plaisir de lui avoir apporté quelque joie. J'ai particulièrement apprécié ses réactions lorsqu'elle a vu son visage reproduit par toute la troupe.
N'y a-t-il pas quelque avertissement contre les navigateurs qui apportent des cadeaux ? Demanda Paul. Ses pensées revinrent au spectacle qui avait été donné dans le grand hall. Les danseurs du Bene Tleilax étaient apparus en costume du tarot de Dune. Ils s'étaient déployés en figures évoquant des flammes vives et d'anciens présages. Puis étaient venus les puissants, rois et empereurs aux attitudes rigides, semblables à des effigies sur d'antiques pièces de monnaie, formant des figures bizarrement floues. Puis le moment comique. La copie fidèle du corps et du visage de Paul, et de Shiny, et de Stilgar, qui, en se voyant répéter à de multiples exemplaires, avait grommelé et haussé les épaules là où les autres avaient ri.
« Nos cadeaux répondent à la meilleure des intentions, » dit Edric.
« La meilleure des intentions, » dit Paul, « alors que le Gola lui-même nous a révélé qu'il avait été conçu afin de nous détruire. »«
Vous détruire, sire ? Mais peut-on détruire un dieu ?»
Stilgar, pénétrant dans la pièce et entendant ces derniers mots, s'arrêta net et posa sur les gardes un regard plein de colère. À son sens, il se tenait beaucoup trop loin de Paul. Il eut un geste brusque, irrité.
« Tout va bien, Steele, » dit Paul en levant la main.
« Nous avons une discussion amicale. Pourquoi ne pas approcher la cuve de l'ambassadeur de mon divan ?» Rapidement, Stilgar évalua la disposition suggérée par Paul, qui mettrait la cuve d'Edric beaucoup trop près de l'empereur.
« Mais tout va bien, Steele, »
répéta Paul.
et il fit le signe qui donnait à son ordre un caractère impératif. Avec une évidente répugnance, Stilgar s'avança et poussa le réservoir de gaz orange un peu plus près du divan. Il n'aimait pas plus le contact de cette cuve que le lourd parfum de mélange qui l'environnait. Il se plaça à l'un des angles, non loin de l'appareil par lequel se faisait entendre l'ambassadeur. « Détruire un dieu, » dit Paul. « Voilà qui est très intéressant. Mais qui dit que je suis un dieu ?»«
Ceux qui vous adorent, » répondit Edric en regardant ostensiblement Stilgar.
« Est-ce là ce que vous croyez ?»«
Ce que je crois n'a pas d'importance en cette circonstance, sire. » Il semble néanmoins aux yeux de la plupart des observateurs que vous conspirez afin de vous poser en Dieu. Et n'importe qui peut être conduit à se demander si c'est là une chose qu'un mortel peut se permettre en toute sécurité.
Paul observa attentivement l'ambassadeur. C'était là une créature repoussante d'aspect, mais sensible. Il s'était bien des fois penché sur la question soulevée par Edric, mais il avait également entrevu bien des possibles dans la trame du temps. La déification n'était pas le plus tragique des destins. Il y avait pire, mais de telles explorations ne concernaient pas les navigateurs d'ordinaire.
Étrange. Pourquoi cette question? Qu'est-ce comptait donc Edric d'une telle bravade?
Les pensées de Paul se succédèrent à la vitesse de l'éclair. Le Tleilax était derrière ceci. La récente victoire de Sembu, apportée au crédit du djihad, devait peser sur les actes d'Edric. Il y avait là trace de divers credos du Bene Gesserit. Un processus englobant le traitement de quelques milliers de données s'inséra dans cette série de déductions en un peu moins de 3 secondes.
Un navigateur remet-il en question les voies de la préscience? Demanda-t-il, rejetant Edric en terrain instable.
Le navigateur décontenancé se reprit très bien en proférant quelque chose qui ressemblait à un long aphorisme.
Nul homme d'intelligence normale ne saurait mettre en doute les pouvoirs de préscience, sire. Ceux-ci sont attachés à l'homme depuis les temps les plus anciens et nous influencent au moment où nous soupçonnons le moins leur présence. Fort heureusement, il existe d'autres forces dans l'univers.
Supérieures à la préscience? Demanda Paul, impitoyable.
Si la préscience seule existait et était omnipotente, sire, elle s'annulerait par elle-même. Elle ne connaîtrait d'autres applications que celles entraînant son déclin.
Reste la situation humaine, dit Paul.
Un élément bien précaire, au mieux, à condition que des hallucinations n'y jettent pas la confusion.
Mes visions ne sont-elles que des hallucinations? Demanda Paul, la voix empreinte d'une fausse tristesse. Ou bien voulez-vous dire que ce sont mes fidèles qui succombent à l'hallucination?
Stilgar, conscient des tensions croissantes, se rapprocha d'un pas. Son regard ne quittait pas le représentant de la guilde qui dérivait dans son atmosphère orange.
Vous déformez mes propos, sire, dit le navigateur.
Et il subsista un insolite écho de violence né de cette phrase.
De la violence, ici, songea Paul. Il n'oserait pas.
À moins, il regarda ses gardes, que les forces qui le protègent ne soient destinées à le remplacer.
Vous m'accusez de me poser en dieu vivant, dit Paul en mesurant sa voix de telle façon que seuls Stilgar et Edric puissent entendre.
Vous m'accusez de conspirer?
Peut-être est-ce là un mot maladroit, dit Edric.
Maladroit mais significatif. Il implique que vous vous attendez au pire de ma part.
Edric tendit le cou et jeta un regard oblique plein d'appréhension à l'adresse de Stilgar.
Le peuple s'attend toujours au pire de la part des riches et des puissants, sire. On dit qu'il est facile de déceler un aristocrate car il ne révèle que ceux de ses vices qui le rendront populaire.
Un frémissement courut sur le visage de Stilgar. Paul s'en aperçut, en même temps qu'il décelait les pensées et les fureurs rentrées du vieux Fremen.
Comment ce navigateur osait-il parler ainsi à moi de Dib?
Bien sûr, vous ne plaisantez pas, dit Paul.
Plaisanter, sire?
Paul sentit que sa bouche était sèche. Il lui semblait qu'il y avait beaucoup trop de personnes dans la salle, que l'air qu'il inspirait était passé par de trop nombreux poumons.
Le parfum du mélange qui venait de la cuve du navigateur avait quelque chose de menaçant. Mais dans cette conspiration, qui seraient les autres ? Demanda-t-il. Faites-vous allusion au Cuisarat ?
Edric haussa les épaules dans un effluve orangé. Tout à coup, il ne semblait plus s'inquiéter de la présence de Stilgar.
Le Fremen ne le perdait pourtant pas du regard.
Insinuez-vous que mes missionnaires des Saints Ordres, que tous mes missionnaires prêchent un subtil mensonge ?
Ce pourrait être uniquement une question d'intérêt personnel et de sincérité, répondit Edric.
La main de Stilgar se posa sur son kris. Paul secoua la tête.
Ainsi vous m'accusez de mensonge.
Je ne suis pas certain qu'accuser soit le terme qui convienne, sire.
Quelle audace, songea Paul.
Et il dit, que vous m'accusiez ou non, vous laissez entendre que mes évêques et moi, nous ne sommes que des brigands avides de puissance.
Avides de puissance ? Demanda Edric.
À nouveau, il regarda Stilgar.
La puissance tend à isoler ceux qui en ont de trop. À la fin, inévitablement, ils perdent tout contact avec la réalité et s'effondrent.
Sire, gronda Stilgar, vous avez fait exécuter des hommes pour moins que cela.
Des hommes, oui. Mais nous avons ici un ambassadeur de la guilde.
Il vous accuse d'une fraude impie.
Ces idées m'intéressent, Stil.
Calme ta colère et tiens-toi sur tes gardes.
Qu'il en soit selon la volonté de Mouad Dib.
Dis-moi, navigateur, reprit Paul. Comment pourrions-nous perpétrer cette fraude hypothétique sur de telles distances dans le temps et l'espace sans qu'il nous soit possible de surveiller chaque missionnaire, d'examiner dans le moindre détail les temples et chapelles de la Cuisarat ?
Qu'est-ce donc que le temps pour vous ? Demanda Edric.
Stilgar se rembrunit, perplexe.
Mouad Dib a souvent déclaré qu'il voyait par-delà les voiles du temps, songea-t-il.
Que veut dire exactement le navigateur ?
Une telle structure ne devrait-elle pas révéler quelques trous, quelques failles ? Demanda Paul.
Certaines discordes significatives, certains schismes, certains doutes, des confessions, il est certain que jamais nulle tricherie ne viendrait à bout de tout cela.
Ce que la religion et l'intérêt personnel ne peuvent dissimuler, l'art de gouverner le peut, dit Edric.
Êtes-vous en train d'éprouver les limites de ma tolérance ? Demanda Paul.
Mes arguments n'ont-ils donc aucune valeur ?
Désire-t-il être tué ici ? Se demanda Paul. S'offre-t-il en holocauste ?
Je préfère le cynisme, dit-il. Il est évident que vous avez été éduqué dans toutes les astuces mensongères du gouvernement, les doubles sens et les mots du pouvoir. Le langage, pour vous, n'est qu'une arme, et vous sondez en cet instant ma cuirasse.
Point de vue cynique, dit Edric. Un sourire déforma son étrange bouche.
Il est notoire que les puissants ont toujours été cyniques vis-à-vis de la religion. Mais la religion, elle aussi, est une arme. Que devient-elle donc, cette arme, quand la religion devient le gouvernement ?
Paul eut l'impression que tout s'immobilisait au fond de lui, qu'une méfiance absolue l'envahissait. À qui donc Edric s'adressait-il ? Ses paroles étaient diaboliquement habiles, chargées de levier. Il y avait aussi cet arrière-ton d'humour tranquille, cette suggestion de complicité dans le secret. Toute son attitude criait que lui et Paul étaient deux êtres sophistiqués et proches, capables de comprendre des choses qui demeuraient à jamais inaccessibles au commun. Troublé, Paul devinait soudain qu'il n'avait pas été la cible principale de tout ce déploiement de rhétorique. Celui-ci, autant qu'à l'empereur, avait été destiné aux autres, à Stilgar, aux gardes, et sans doute à cet instant,
« J'ai été investi du mana de la religion, » dit Paul.
« Mais je ne l'ai point cherché. » Et il pensa, « Nous y voici. Laissons donc croire à ce poisson humain qu'il a gagné cette bataille de mots. »«
Pourquoi ne pas l'avoir désavoué, sire ?» demanda Edric.
« À cause de ma sœur, Alia, » dit-il sans quitter le navigateur des yeux. « Alia est une déesse. Laissez-moi vous mettre en garde. Elle pourrait bien vous foudroyer d'un regard. »
Un sourire se dessina lentement sur la bouche d'Edric pour être très vite remplacé par une expression de stupéfaction.
« Je suis terriblement sérieux, » reprit Paul.
Contemplant avec plaisir le visage de l'envoyé de la guilde, et notant dans le même temps le hochement de tête de Stilgar. La voix d'Edric était dénuée d'expression. « Vous avez égratigné la confiance que j'avais en vous, sire. Il ne fait aucun doute que telle était votre intention. Ne soyez jamais certain de bien connaître mes intentions, » dit Paul. Et il fit signe à Stilgar que l'entretien atteignait son terme. Comme le Fremen lui demandait silencieusement s'il convenait de supprimer Edric, Paul répondit par un signe négatif qu'il doubla d'une recommandation impérative, de crainte que le Naïb ne prît des initiatives personnelles. Sital, l'assistant d'Edric, s'approcha de la cuve et se mit à la pousser en direction de la porte. Lorsqu'il y parvint, il s'arrêta, se retourna, et portant son regard rieur sur Paul, demanda « Si monseigneur le permet ?»« Oui, qu'y a-t-il ? » demanda Paul, remarquant le mouvement inquiet de Stilgar. « Certains, reprit Sital, prétendent que les peuples s'en tiennent à un gouvernement impérial parce que l'espace est infini. Sans un symbole d'unité, ils seraient gagnés par une impression de solitude. Pour ceux qui sont seuls, l'empereur constitue un lieu sûr, défini. Ils peuvent se tourner vers lui et dire « Le voici, il est bien là. À lui seul, il est nous. » Peut-être, après tout, les religions obéissent-elles au même sentiment, monseigneur ?
Sur ce, Sital hocha courtoisement la tête et se remit à pousser la cuve de l'ambassadeur.
Ils quittèrent le salon. Edric s'était recroquevillé, yeux clos, dans son monde orange. Il semblait soudain épuisé, sans force. Paul ne quitta la silhouette de Sital que lorsqu'elle disparut. Les paroles de l'assistant tournaient dans son esprit. « Étrange personnage, » songea-t-il. À l'instant où il lui avait parlé, il avait perçu venant de lui, de sa peau, une sorte d'émanation faite de personnalités multiples, comme si l'héritage génétique de Sital était en permanence exposé sur la surface de son corps.
« Bizarre, » dit Stilgar sans s'adresser à personne en particulier.
Un garde ferma la porte derrière les deux représentants de la guilde, et Paul se leva.
« Bizarre, » répéta Stilgar.
Une veine palpitait sur sa tempe. Paul diminua l'intensité des brilleurs et s'approcha d'une fenêtre qui ouvrait sur un des angles de la colline sur laquelle était érigée la citadelle. Loin, très loin, des lumières tremblotaient, minuscules. Il se souvint. Une équipe travaillait là, en bas, charriant des blocs énormes de plasmeld pour réparer la façade du temple d'Alia qui avait été endommagée par une tempête de sable inattendue.
« Ouzul, » dit Stilgar, « quel acte inconsidéré que d'inviter cette créature en ces lieux !»«
Ouzul, » songea Paul, « mon nom siège. Il veut me rappeler que jadis il a régné sur moi, qu'il m'a sauvé du désert.
Pourquoi ?» demanda Stilgar.
Il s'était rapproché. Paul ne se retourna pas. J'ai besoin de données supplémentaires.
N'est-il pas dangereux d'affronter cette menace comme un simple mentat ?
Voilà qui est bien deviné, songea Paul. La réflexion du mentat demeurait finie. Un langage, avec ses limites, ne permettait aucune déclaration illimitée. Les dons d'un mentat avaient pourtant leur utilité. C'est ce qu'il déclara à Stilgar en le mettant au défi de le contredire.
« Il y a toujours quelque chose à l'extérieur, » dit Stilgar. « Il vaut mieux que certaines choses, d'ailleurs, soient laissées à l'extérieur. »«
Ou à l'intérieur, » dit Paul. Et en ce moment précis, il accepta le résultat de ses propres conclusions de mentat prescient. « À l'extérieur, oui. » Mais à l'intérieur, là résidait l'horreur véritable. Comment pouvait-il se protéger de lui-même ? Il était certain que quelque part, on se préparait à le détruire. Mais cette position même était cernée par des possibilités encore plus terrifiantes.